Les voies de service, mercredi 12 septembre 2018. Bonjour, je m'appelle Isabelle Falardeau, bienvenue aux voies de service. Bonjour Daniel Lachance.
Bonjour.
Et bonjour, peut-être en Allemagne, à Serge, qui ne nous écoute sûrement pas. Mais donc, on est tous les deux aujourd'hui tout seuls, mais ça nous permet d'avoir tout plein de sujets dans nos champs respectifs. Alors, de mon côté, ben, je vais vraiment m'en aller un peu partout, mais je vais parler des pensionnats autochtones, mais de deux façons différentes. Et dans des... indirectement et directement, si on veut. Mais entre autres, je vais vous parler d'une expérience de réalité virtuelle qui peut nous aider à revivre les pensionnats, enfin, revivre ou à les vivre pour nous donner une idée de ce que c'est vraiment. Et puis, je vais parler d'une poète, Joséphine Bacon, que j'ai eu la chance de rencontrer en personne, mais c'est pas pour ça que je vous en parle, parce qu'elle sort un nouveau recueil. Et puis, des problèmes qui sont toujours vécus par des Autochtones qui vivent en région éloignée, tout ce que ça peut comporter là, de complications quand on est malade, par exemple. Et de votre côté, Daniel?
Eh bien, je vais vous parler d'un chanteur britannique qui va faire une tournée d'adieu.
Et un je vais dire tantôt
de qui il s'agit. Oui, quelqu'un de très connu, pas qui n'a pas fait partie des Beatles, mais qui était un de leurs proches, je dirais.
Nous laisser en aller.
Oui, oui, ben il faut rester à l'écoute.
Oui, tout à fait.
Et je vais vous parler aussi d'un retour sur un album mythique d'un autre groupe britannique, un album qui avait fait beaucoup de parler de.
Donc on est en musique britannique.
Oui, oui, mais je vais vous parler, on a du temps aujourd'hui aussi, je vais vous parler aussi de certaines autres personnes, selon le temps qu'on
peut-être
a.
Un peu moins connu, mais tout aussi intéressant.
Ouais, probablement aussi connu
aussi
quand même.
Connu, oui, okay. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, je commence tout de suite avec un sujet. J'en ai trop et là, c'est ça, je navigue parmi mes onglets. Alors oui, donc je vous parlais de réalité virtuelle. Guérir, documenter et instruire, lancement d'un pensionnat autochtone en réalité virtuelle. C'est un article que j'ai trouvé sur le site Ici Manitoba de Radio-Canada et qui a été publié le 10 septembre. C'est des chercheurs de l'Université du Manitoba qui se sont alliés avec des survivants des pensionnats autochtones du Canada pour créer un pensionnat en réalité virtuelle. Donc, ça a été dévoilé aux survivants et à leurs familles lors d'une cérémonie qui a eu lieu le 10 septembre à Winnipeg. C'est un texte de Gavin Boutrois. Alors, il y a Théodore Fontaine, qui est membre de la Première Nation de Sagking et qui est survivant d'un des pensionnats autochtones, qui dit « Beaucoup de personnes affirment connaître l'histoire des pensionnats autochtones s'ils en entendent parler. Mais s'ils l'éprouvent vraiment, où ça s'est passé, ce qui s'y est déroulé, ils ont plus tendance à penser que c'est vrai. » M. Fontaine est le président du Conseil des survivants qui chapeaute le projet « Incarner l'empathie ». Ce monde de réalité virtuelle permet à l'utilisateur de s'immerger dans un fac-similé du pensionnat autochtone de Fort Alexander, qui est le pensionnat où Théodore Fontaine a passé 12 ans de sa vie. Ça permet aux usagers de découvrir le trajet jusqu'au pensionnat, à pied, dans un véhicule ou en bateau. Et ensuite, on peut découvrir, naviguer les pièces du bâtiment. Tout au long de la visite, des témoignages audio des survivants jouent en arrière-plan et la voix de Théodore Fontaine fait partie de la narration. Pour M. Fontaine, la vocation la plus importante du projet, c'est de concrétiser les pensionnats autochtones pour ceux qui ne les ont pas vécus. Mais vous allez voir plus tard que c'est pas nécessairement... L'objectif est différent pour différentes personnes qui sont impliquées dans le projet ou qui l'ont essayé, là, qui l'ont expérimenté. Alors donc, M. Fontaine dit « Une fois, je donnais une conférence à des écoliers et un d'eux m'a demandé « Est-ce que tu dormais vraiment là? » J'ai répété que j'y avais passé 10 mois enfermée. c'est vraiment difficile de faire comprendre que ça s'est vraiment passé. Le projet Incarner l'empathie a aussi un but universitaire. Des chercheurs de l'Université du Manitoba vont l'utiliser pour une étude de psychologie sociale auprès de 800 étudiants. Ils veulent examiner l'effet de la virtualité, de la réalité virtuelle, oui, merci, sur l'empathie que ressentent les participants envers les survivants. Est-ce que ça fait une différence? On veut savoir si ça peut rendre encore plus puissants les témoignages des survivants. On veut voir si leur compréhension de la souffrance, des épreuves, de la destruction qu'ont subi les personnes qui étaient internées est approfondie par l'expérience. C'est le professeur de sociologie de l'Université du Manitoba, Andrew Woodford, qui est le directeur, un des directeurs du projet, qui nous dit ça. Beaucoup de musées et d'autres agences commémoratives investissent beaucoup d'argent dans cette technologie, la virtualité réelle. Voyons, je vais vraiment...
Décidément, c'est pas facile à dire.
Je vais vraiment avoir de la misère de la réalité virtuelle. C'est un peu l'avant-garde de la représentation des atrocités, mais il n'y a pas beaucoup d'études pour voir si ça marche vraiment ou pas. Ça semble une bonne idée, mais on veut vraiment vérifier scientifiquement comment ça fonctionne et quels sont les impacts réels. Les premières tentatives de création de mondes numériques interactifs, que ce soit en deux dimensions ou en réalité virtuelle, s'apparentaient trop aux jeux vidéo, selon le professeur. Donc, l'équipe qui a créé le pensionnat autochtone virtuel a supprimé tout élément qui se rapprochait du jeu. Quand on a commencé le projet, on visait les Canadiens non autochtones, dit M. Woolford, mais rapidement, le Conseil des survivants nous a fait savoir que c'était aussi un outil de guérison pour eux et leur famille. Pour Carrie Seymour, par exemple, qui a été internée au pensionnat autochtone peu connu d'Assiniboia, qui était niché dans un quartier riche de Winnipeg, le projet a été une des premières occasions de raconter son histoire. Donc, je vous parlais de différents objectifs. Pour elle, elle est catégorique qu'elle s'adresse l'expérience surtout aux jeunes autochtones qui souffrent de traumatismes intergénérationnels. Alors qu'on le voit comme une façon de conscientiser les gens pour les pensionnats autochtones, pour la réalité des pensionnats, que ce soit une façon de revivre l'expérience et d'exorciser en quelque sorte l'expérience traumatique ou pour les prochaines générations de comprendre ce que leurs parents ont vécu. Je peux conclure en citant Théodore Fontaine qui dit « C'est un outil pour nous aider à guérir ». De votre côté, Daniel.
Oui, ben je vous ai dit tantôt que je parlerais d'un chanteur très connu qui amorce une tournée d'adieu. Et là, dans le titre, je vais le nommer. Je ne vais pas garder le suspense plus longtemps.
D'accord.
Elton John a inauguré sa grande tournée mondiale d'adieu aux États-Unis.
Ben là, il va pas arrêter de faire des disques.
Une tournée d'adieu qui risque de durer plusieurs années.
D'accord, merci.
Donc, l'immense chanteur et compositeur britannique, aujourd'hui âgé de 71 ans, a commencé une série de quelques 300 concerts qui seront donnés dans les plus grandes salles du monde durant 3 ans.
Bon, donc 3 ans d'idée. Pour commencer,
oui,
plus les supplémentaires.
Voilà. Teinté de nostalgie, ces récitals géants revisiteront les plus grands succès de sa carrière. Yellow Brick Road, tel est le nom de la grande tournée mondiale d'adieu de Sir Elton John. Le compositeur et chanteur anglais, l'homme aux 300 millions de disques quand même, a voulu ainsi revenir à la source de son inspiration, le magicien d'Oz ou The Wizard of Oz. Quand déjà en 1973, dans le double album Goodbye Yellow Brick Road, désormais historique, il évoquait la fameuse route de briques jaunes qui devait conduire les héros du roman fantastique de L. Frank Baum à la cité d'Emeraude. C'est à Allentown, en Pennsylvanie, aux États-Unis, qu'Elton John a inauguré le samedi 8 septembre sa tournée d'adieu. S'accompagnant de son indispensable piano, il a, comme il l'avait promis en début d'année, interprété magistralement ses plus grands succès. Avec ce concert inaugural, le premier d'une formidable série de 300 spectacles qu'ils feront voyager sur les 5 continents pour rencontrer une dernière fois, supposément, ses fans, Elton John tient ici sa promesse, offrir un bel adieu à son public. Elton John a expliqué pourquoi il tirait sa révérence. Ouais,
une mauvaise influence sur vous.
Ouais. Donc, âgé aujourd'hui de 71 ans, récemment marié à son compagnon David Furnish, le chanteur, père aussi de 2 enfants, consacrera après cet ultime tour de chant la plus grande partie de son temps à sa famille. Yellow Brick Road est empreint de toutes sortes, les nostalgies du chanteur. Pendant le spectacle, ses inconditionnels ont découvert des photos de son enfance et de son adolescence. Un film sur sa grand-mère adorée y a aussi été présenté. Il a également rendu des hommages appuyés aux personnalités qui l'ont marqué. La chanteuse Aretha Franklin, qui est décédée récemment, il y a quelques semaines seulement. L'homme politique sud-africain Nelson Mandela et le physicien Stephen Hawking.
C'est pas n'importe quelles inspirations.
Non, quand même. Il a choisi des personnalités assez marquantes. Deux moments forts resteront gravés dans la mémoire des spectateurs. Quelques images rares firent revivre Marilyn Monroe pendant que la superstar interprétait son plus grand tube, Candle in the Wind. Et on se souvient, Candle in the Wind,
oui,
il avait
chanté à la mort de Diana.
Voilà.
Oui, puis c'était tellement touchant, c'est devenu la chanson.
Absolument.
Qu'on peut pas entendre sans penser à ça.
Et voilà, une chanson qui existait déjà avant, mais qui avait vraiment pris une autre tournure à ce moment-là. Le final aussi aura été particulièrement émouvant. Dans le survêtement noir et rouge qu'il portait sur le fameux album de 1973 dédié au magicien d'Oz, Elton John interpréta la chanson qui inspira son titre à cette pharaonique tournée d'adieu, « Goodbye Yellow Brick Road ». Et quoi de mieux pour terminer cet article que d'écouter la pièce qu'on vient de citer ici, celle d'Elton John, « Goodbye Yellow Brick Road ».
Service, c'était Elton John, Goodbye Yellow Brick.
Merci beaucoup, Maurice. Et puis, ben moi, on passe d'un poète, parce que c'est de la poésie hein, qu'Elton John fait avec sa musique et aussi avec ses
Absolument.
Paroles. Alors, d'un poète à l'autre, je transitionne vers la poète et nous, Joséphine Bacon, qui a fait paraître dimanche son 4e recueil de poésie, « Ouyesh quelque part », qui est sa première œuvre urbaine, pensée et écrite en français, inspirée par 50 ans de vie à Montréal. Le texte que j'ai choisi est signé Anne-Marie Yvon et je l'ai pris sur le site de Radio-Canada Espace Autochtone. Ça a été publié samedi, donc avant le lancement, mais on peut s'imaginer que Madame Yvon avait lu, avait reçu une copie du recueil. Alors, il y a 10 ans à peine, Joséphine Bacon n'écrivait pas. Elle griffonnait sur des bouts de papier les mots qui l'habitaient. Des mots que lui avaient soufflés ses ancêtres au fil de leurs rencontres, la transmission naturelle de sa langue et de sa culture, oubliée pendant 14 ans de pensionnat. Quand je vous disais qu'on allait parler des pensionnats de façon directe et indirecte,
on fait un lien,
ça finit toujours par revenir parce que, oui, c'est ça, pendant les 14 ans où elle était au pensionnat, Mme Bacon n'a pas parlé sa langue, mais elle l'a retrouvée en 2008, une rencontre déterminante qui lui permet de coucher sa prolifique poésie sur papier. Ses premiers recueils racontent la vie dans l'arrière-pays, le territoire que les anciens des nomades ont tant parcouru. Le vocabulaire surgit instinctivement en Innu, racontant la toundra et le panorama à perte de vue. Ouyesh, quelque part, de son côté, publié chez Mémoire d'Encrier, est plutôt inspiré par le bout de la rue sans horizon qu'elle arpente depuis un demi-siècle. Cette rue, dans cette cité qu'elle respecte malgré le manque de profondeur de champ, parce que, dit-elle, la ville lui a redonné son histoire, ses mythes fondateurs. Ce qu'elle dit, c'est que c'est dans la ville qu'elle a retrouvé ses vraies origines. Elle fait référence aux 3 anthropologues qu'elle y a rencontrés, parce que débarquée à Montréal en 1968 pour travailler en secrétariat, c'est plutôt dans le bureau de Rémi Savard et de ses collègues anthropologues que Joséphine Bacon a abouti. Elle traduit de l'innu vers le français leurs recherches sur le terrain, et eux, de leur côté, lui enseignent son histoire. C'est touchant, puis c'est triste en même temps de penser que c'est des anthropologues qui ont appris l'histoire innu à une innu. Mais c'est ce qui est arrivé, puisqu'elle avait désappris, en quelque sorte, à cause des pensionnats. Donc, il lui enseigne son histoire, sa culture, ses mythes, et la langue du territoire, le Nutshimit, qu'elle entend sur les cassettes qu'il rapporte. Parce que le Nutshimit, c'est la langue innu de l'arrière-pays, alors que l'innu assi, c'est la langue innu des réserves. Apparemment qu'il y a une différence, ben, forcément, parce que le territoire a une grosse influence sur la façon dont on parle une langue. Et la ville lui a beaucoup donné. Elle a eu envie de la mettre en scène dans ce 3e recueil écrit en solo. Écrire est aussi une manière pour la poète, qui est née à Pessamit, au sud-ouest de Baie-Comeau, d'exprimer son désarroi devant certaines réalités. « L'impuissance me donne des mots à écrire », nous dit-elle. C'est le cas dans cet extrait d'un poème où elle aborde la problématique des pipelines. « Ma terre bafouée par un serpent venimeux où coule mon histoire ». Les mots de Joséphine Bacon sont ancrés dans la culture québécoise depuis quelques années, entre autres parce que des interprètes, dont Chloé Sainte-Marie et Alexandre Béliard, les ont mis en musique et fait entendre aux 4 coins de la province. Une forme d'appropriation culturelle? Pas selon Mme Bacon.
On n'embarquera pas là-dedans.
Non, mais parce que... Oui, mais parce qu'elle en parle, parce que pour elle, c'est pas de l'appropriation culturelle. Pour elle, l'innu est une trop belle langue pour que ça reste enfermé en réserve.
Autrement dit, il y en a qui en ont profité pour la mettre en valeur,
oui.
Pas nécessairement pour
se l'approprier. Et c'est ça qu'elle dit, que Chloé... Elle dit « Je savais que Chloé allait faire voyager ma langue. » Et elle précise que c'est la façon dont on s'approprie quelque chose, c'est ce que vous dites, qui fait la différence. Il faut se parler, dialoguer, mais si une personne va amener ton histoire à être entendue par des milliers d'autres, c'est bien. Et si Joséphine est l'une des rares à écrire des poèmes dans sa langue, l'innu, qu'elle enseigne aussi depuis peu à l'institution Kiuna, elle mise sur la génération montante. Elle nous parle je fais encore des inversions. Alors, Natacha Canapé-Fontaine, dont la force est le militantisme, c'est comme ça qu'on la reconnaît, dit Joséphine Bacon, et Naomi Fontaine, une jeune auteure très affirmative. Deux auteurs qui représentent l'espoir chez les jeunes. Elle conclut en disant « Ce n'est plus le silence, là. » Donc, c'est ça, elle a encore de côté plein de petits bouts de papier couverts de mots. Elle qui, dans un de ses poèmes, se décrit comme étant aujourd'hui la femme digne qui raconte. « Alors, est-ce que vous avez un autre petit quelque chose pour nous, Daniel?
Oui, voilà. Un article que j'ai trouvé dans Rolling Stone Magazine qui va probablement vous intéresser. Je sais que c'est un groupe qui vous intéressait beaucoup. The Cranberries.
Oui, ben oui.
25 ans pour Everybody Else Is Doing It. Vous connaissez cet album mythique.
Oui,
The Cranberries prépare une édition anniversaire pour Everybody Else Is Doing It, un projet qui avait été mis en suspens depuis la mort en janvier de la chanteuse Dolores O'Riordan. J'ai eu de la misère pendant un bout de temps, mais je pense que je suis capable de le prononcer comme il faut.
Mais oui, j'allais vous féliciter d'ailleurs.
J'espère que ça va continuer. Les Cranberries célébreront le 25e anniversaire de leur premier album, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, avec un box collector.
C'est coffret cadeau?
Un coffret cadeau, probablement. Dans les bacs le 19 octobre via Island. Le groupe rock irlandais a commencé à planifier la réédition l'année dernière, mais a mis le projet en suspens après la mort de la chanteuse Dolores O'Riordan en janvier. En mars, les membres des Cranberries ont brisé le silence en confirmant non seulement la sortie de cette édition, mais en annonçant également qu'un nouvel album studio était dans les cartons. L'édition du 25e anniversaire d'Everybody Else Is Doing It est donc désormais disponible en précommande, si ça vous intéresse. La collection se présente sous 4 disques, mais s'exporte aussi en format vinyle, dont une édition limitée. La réédition standard comprendra une version remasterisée de l'album original, des démos, à l'époque où le groupe s'appelait encore The Cranberry Saw Us. C'est quoi déjà Cranberry en français? La canneberge nous a vus, effectivement.
Ben, c'est tout aussi bizarre en français qu'en anglais,
ouais,
finalement.
Mais probablement, c'est pour ça qu'ils ont gardé juste The Cranberries. Donc, l'époque où le groupe s'appelait encore The Cranberry Saw Us et session d'enregistrement des B-sides, des face B, mais aussi le tout premier EP des Cranberries sorti en 1991, Uncertain. Les disques 3 et 4 comprennent un live enregistré au festival irlandais Cork Rock en 1991, ainsi que trois sessions radiophoniques enregistrées entre 91 et 93 pour l'émission RTE et pour la BBC. Un joli programme pour rendre hommage à un disque fondateur pour la formation, mais aussi à Dolores. Et ici, il y a tout le tracklist, si on veut, la liste des chansons au complet, 4 disques. Rapidement, là, je dirais que ça fait ça fait déjà 28, 30, 45, il y a une soixantaine de chansons.
Donc, c'est ce qu'on peut s'attendre à voir dans le box set collector.
Oui, voilà. Donc, c'est déjà disponible en précommande, sinon ça va être dans les bacs très bientôt.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur Couleur Café, Serge Gainsbourg.
Merci beaucoup. Ça s'écoute bien. Hein?
Oui, quand même. La version qu'on est habitué d'entendre, par exemple, c'était celle de Kid Koala. Est-ce que c'est...
Non, pas Kid Koala, mais ça a été repris quelques fois quand même,
ouais,
sa pièce.
Ouais, on a eu.
Mais moi, celle-là m'était quand même familière à l'oreille.
Et j'ai une petite brève, quelque chose que j'ai trouvé dans le 24 heures de ce matin, les Cowboys fringants revisités. Il n'aura fallu qu'une chanson à Carl Tremblay et au chef Simon Leclerc pour prouver que l'audacieuse union entre les Cowboys fringants et les musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal, l'OSM, était vouée au succès hier soir. Avec sa carte blanche au niveau des arrangements, le chef Simon Leclerc n'a pas restreint la fougue des Cowboys fringants, pas plus qu'il n'a éteint leur énergie. Il les a plutôt canalisés et superbement distribués. À tel point que les univers de la formation et de l'orchestre se sont naturellement imbriqués l'un dans l'autre.
Et c'est ce qui met fin à la première partie de notre émission. En deuxième partie, je vais vous parler de... Je vais parler d'éducation, de l'UQAM qui réagit au, qui met en place des mesures en suite aux recommandations du je vais finir par y arriver. De la
qu'est-ce qu'ils vont faire
justice
l'UQAM?
Justice et réconciliation. Là, je vais vous dire ça plus. La commission de vérité et réconciliation. Voilà. Alors suite à ça, il y a eu des mesures qui ont été mises en place, mais là, ça prend vraiment forme cette année à l'UQAM. Et puis, je vais vous parler là, de ces problèmes de santé qui portent qui poussent certains Autochtones à déménager parce qu'ils sont trop loin pour avoir des soins.
Oui.
Et puis, vous allez nous révéler...
Oui, je vais parler d'un album mythique.
De vos artistes mystères. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve après une courte pause. Oui. Alors, on est de retour avec les sujets dont on vous a parlé juste avant de terminer. Moi, j'ai commencé en vous parlant justement de ce sujet qui m'a fait retourner ma langue plusieurs fois dans la bouche en même temps que je parlais, alors que j'aurais dû le faire avant. L'UQAM prend en compte les besoins de ses étudiants autochtones. C'est un article qui a été publié le 29 août sur le site ICI Espace Autochtone. C'est ICI Grand Montréal, en fait, de Radio-Canada. C'est signé Ismaël Oussadine. Alors, pour sa rentrée 2018, l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, met en place plusieurs services destinés à des étudiants, à ses étudiants issus des Premières Nations, dont l'inauguration d'un local flambant neuf et la création d'un poste autochtone à la vie étudiante, une première pour l'établissement d'enseignement. Le local est situé dans le pavillon J.A. de Sèvres de l'UQAM et il est fin prêt à accueillir les premiers étudiants autochtones. En fait, au moment où on se parle, il y en a sûrement accueilli déjà plusieurs, on espère, puisqu'on est déjà le 12 septembre. J'ai regardé la date tout
c'est
à l'heure,
ce que vous
j'ai
avez
déjà
dit
oublié.
Tantôt.
Oui, c'est ça. Et les lieux qui devraient assurer une meilleure intégration seront culturellement sécurisants pour les étudiants autochtones, selon ce que nous dit Alexandra Lorange. Madame Lorange a été engagée en mars à temps partiel par l'université à titre de conseillère à l'accueil et à l'intégration des étudiants autochtones. Elle est diplômée en droit de l'UQAM et elle est issue de la nation Atikamekw. Et ce qu'elle dit, c'est « Je connais à la fois l'université où j'ai étudié et la réalité des Amérindiens dont je fais partie. Je sais qu'il n'est pas toujours facile pour un étudiant autochtone de pouvoir vivre pleinement sa culture. » Alors, connaissant bien l'université, connaissant bien les difficultés de s'adapter, elle est vraiment la personne idéale pour le poste. La conseillère a pour mission de s'assurer de la mise en œuvre des projets en matière de soutien aux étudiants autochtones, comme un suivi personnalisé, des rencontres, des formations. Et son poste, affecté au service à la vie étudiante, résulte d'une subvention de 327 000 $ qui avait été accordée pour 3 ans à l'UQAM par le gouvernement du Québec. La subvention permet de mettre en place les différentes mesures destinées aux étudiants autochtones. Et ce que dit Mme Lorange, c'est que c'est tout nouveau pour l'UQAM qui suit les recommandations, donc je le disais tout à l'heure, du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Le rapport conseillait aux universités du pays d'intégrer des mesures pour les étudiants autochtones. Alexandra Laurent, j'espère que les projets créés seront conservés par l'université, parce que c'est, oui, c'est une subvention pour 3 ans, mais on fait ça à long terme, là, dans le fond, pour que ça dure. Je crois que oui, car c'est une volonté institutionnelle de l'UQAM, c'est ce qu'elle nous dit. Elle sent qu'il y a une véritable volonté d'intégrer la réalité autochtone au campus. Outre l'embauche prochaine d'un étudiant qui viendra assurer une permanence dans le nouveau local, l'université organisera plusieurs activités d'accueil, comme une première édition de la Fête culturelle autochtone, organisée le 20 septembre. La réaction des étudiants autochtones est très positive, selon la conseillère. Récemment, une étudiante au doctorat m'a dit « Enfin! » Donc oui, ça, c'est assez positif. Les besoins, c'est comme positif, mais négatif en même temps, hein, quand on dit ouais, « enfin ».
Ça veut dire qu'il était temps que ça soit positif, finalement.
Oui, c'est ça. C'était négatif, mais là, ça commence à être positif. Les besoins sont là puisqu'on retrouve les étudiants autochtones dans les 3 cycles d'études universitaires. Les étudiants autochtones de l'UQAM auront tout de même dû attendre 2018, donc enfin, pour avoir droit à des services déjà offerts dans d'autres universités du pays. Selon la conseillère, ce n'est pas l'UQAM qui est en retard, mais tout le Québec. Les universités de l'Ouest du Canada sont en avance en matière d'intégration des Autochtones. Elles sont rendues loin. Au Québec, il y a une réalité qui doit être prise en compte. Et on voit que ça arrive de plus en plus. Et ben c'est ça, je vais continuer de suivre les différents développements là, au niveau de l'éducation parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. L'éducation en général, mais je sais que c'est particulièrement difficile. J'ai lu beaucoup d'articles là-dessus. L'adaptation, on en a souvent parlé ici, là, d'arriver d'un milieu petit dans une réserve, puis d'arriver dans une grande ville, dans un campus universitaire qui souvent est 10 fois plus grand que le village dans lequel on a grandi. Donc, c'est très important. Alors, je vais continuer de vous tenir informés à ce sujet-là. Et où est-ce que vous allez nous amener maintenant? Là? Le mystère va enfin être élucidé.
Oui, non. Un autre article que j'ai trouvé dans le Rolling Stone magazine. Les Stones, justement, qui n'ont pas rapport avec le magazine lui-même, mais les Rolling Stones reviennent sur l'enregistrement de Exile on Main Street. En mai 1972, les Stones enregistrent un des albums les plus iconiques de tous les temps, Exile on Main Street, retour sur une inoubliable mélodie en sous-sol. Et là, c'est Keith Richards qui parle. Il dit « Ça tenait plus du bunker d'Hitler que sous-sol ordinaire. » Il avait confié ça à Rolling Stone en 1997 à propos de Nellcote, son manoir situé au sud de la France, où une grande partie du double album des Stones a été enregistré pendant l'hiver 1971. Exilés fiscaux, les Stones se sentaient un peu seuls. « Nous savions pertinemment que nous avions été expulsés », ajoute-t-il. Notre pays essayait de nous arrêter, mais ne pouvait pas nous mettre en prison, alors il s'en est pris à notre portefeuille. Nous avions ce studio mobile et j'avais cette maison avec un énorme sous-sol. Nous avons commencé à répéter là-bas tout en cherchant un autre studio. Puis on s'est soudain rendu compte que ça nous convenait parfaitement. On avait tellement de choses à faire, ça ne servait à rien de tout recommencer ailleurs. » Dans le fond, ce qui explique, c'est que ils ont été obligés de s'exiler d'Angleterre parce que ça leur coûtait trop cher en impôts, finalement. Ils sont en allés s'installer en France.
Oui, ça leur coûtait trop cher ou ils étaient trop cheap, mais...
Non, ça leur coûtait,
ça leur coûtait
cher,
vraiment trop cher.
Donc, ils ont acheté une espèce de gros château, un manoir en France. Et ce qu'ils racontent, dans le fond, c'est qu'ils ont un studio mobile, tout l'équipement de studio d'enregistrement dans un camion. Ils se servaient de ça pour enregistrer. Ils prenaient l'espace à l'intérieur du château dans un sous-sol qu'ils appelaient son bunker. Et ils se servaient de l'équipement du camion pour enregistrer.
C'est vraiment pratique quand même.
Ouais. Et ça, d'ailleurs, ce camion-là, pour l'histoire, il a été utilisé par plusieurs autres groupes aussi, des Purple, etc. Donc, le chef-d'œuvre résultant de cette étrange session est encore aujourd'hui un mélange étonnamment dense de rock, de blues et de soul qui a défini le son des Stones à leur meilleur. Mick Jagger décrit la brillante crudité d'Exile comme un reflet de ce qu'était le groupe à l'époque. Nous avons pris plaisir à enregistrer un disque décalé quelque peu fourre-tout. Bien que Jagger ait dit à Jan Wenner de Rolling Stone que le mot « stone » décrivait parfaitement le groupe à l'époque, il souligne qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais qu'ils se sont évidemment mis au travail. En dépit de la légèreté de l'album, il a marqué le sommet d'une remarquable série d'enregistrements que les Stones ont fait avec le producteur Jimmy Miller, à commencer par Beggar's Banquet, suivi de Let It Bleed et Sticky Fingers. C'était la première fois que nous travaillions avec un producteur de musique, précise Richards. On avait l'habitude de travailler avec Andrew Oldham, qui était une grande source d'inspiration, mais il faut bien avouer qu'il était sourd. Ça aide pas beaucoup. Malgré la créativité du guitariste des Stones de l'époque, Mick Taylor, qu'on ne connaît pas beaucoup parce qu'il n'a pas été longtemps avec eux, Mick Taylor. On connaît surtout Ron Wood qui est là depuis, depuis les années 70.
Moi, je vais vous dire, je me sens toujours inculte quand je vais vous me parler, ouais. Parce que moi, il n'y en a aucun que je connais. Keith Richards, ça me dit quelque chose.
Oui, ben, les deux plus connus, mais, bien entendu.
Puis Mick Jagger, c'est aussi un petit quelque chose. Mais
c'est sinon, incontournable. Donc, ainsi que celle du pianiste Nicky Hopkins et des joueurs de corps Bobby Keys et Jim Price, Jagger déclare que pour les Stones, Exile était un disque très difficile à faire, alors que Beggar's Banquet et Let It Bleed, ce n'était pas la même musique, et ce, même si Brian Jones nous avait posé problème. Ça, c'était le premier guitariste qui a été trouvé mort dans une piscine en 69.
Pour le Richards, premier à être trouvé mort ou le premier à être guitariste?
Ben, il était deux guitaristes
qui ont été trouvés morts.
Non, c'est ça, c'est ça. Pour Richards, l'atmosphère du sous-sol s'effrayait un chemin jusque dans les sillons du disque. C'était vraiment funky comme endroit et il y avait de la moisissure de partout, précise-t-il. J'ai dû marcher dans un couloir pendant 5 bonnes minutes pour trouver Charlie Watts. Ça, c'est peut-être exagéré un peu, mais bon.
Il avait peut-être pris quelque chose qui a fait sembler les minutes
tourné
plus longues.
Peut-être qu'il a tourné
à rond d'un cœur.
C'était de la folie. On s'était habitué aux bizarreries du studio et on avait utilisé toutes ces excentricités en notre faveur. Je me rappelle de tout, du sud de la France, de ma maison et des gars qui traînaient avec nous, conclut Richards, nostalgique. Le studio mobile était garé devant l'entrée et le soir, on descendait dans le sous-sol et on essayait des trucs. C'est la seule fois où j'ai eu l'impression d'être au sommet. C'est peut-être le truc. Peut-être que je devrais encore entraîner le groupe en sous-sol.
Come on!
Happy par les Rolling Stones.
Merci beaucoup. Toujours, ça donne toujours envie de bouger, hein, les Rolling Stones, c'est... Pourquoi?
Ouais, quelque chose quand même. Là.
Alors, ben, je vous parle de bouger, justement. Des Autochtones doivent déménager pour survivre. C'est une autre sorte de mouvement, on va dire. C'est un article de Geneviève Cassie que j'ai pris dans le, pardon, dans le Journal de Montréal du 9 septembre. Et ça fait suite un peu, j'en ai parlé, vous allez peut-être reconnaître des noms, là, des informations dans mon article, mais on n'en parle pas jamais trop, d'après moi. Alors, c'est ça, des Autochtones qui vivent dans de petites réserves isolées doivent parfois déménager loin de chez eux pour survivre. Et là, on nous parle plus précisément de Marie-Louise Niquet, 68 ans, qui a quitté Manawan pour déménager à Joliette, à 200 km de chez elle, il y a 7 ans. Parce qu'elle doit recevoir des soins de dialyse en raison de problèmes aux reins. Et il est impensable pour elle de se rendre à Joliette 3 fois par semaine pour faire filtrer son sang. En faisant 200 km aller-retour, là, 3 fois par semaine, c'est impossible. Alors, elle explique que déménager dans une ville qu'elle avait toujours perçue comme réfractaire aux Autochtones a été difficile pour elle. Mais par-dessus tout, ce sont les difficultés financières qui l'ont menée au point de penser à en finir avec la vie. En quittant la réserve, j'avais l'impression de ne plus être considérée comme une Indienne. Tout à coup, les lois que je connaissais ne s'appliquaient plus. Je me demandais à quoi j'avais droit, quelles démarches je devais faire. Personne n'était capable de me répondre. Soudainement, les médicaments qu'elle prenait n'ont plus été couverts par Santé Canada. Une dépense de 200 $ par mois, quand même. En plus des frais de déplacement pour se rendre à des rendez-vous médicaux 3 fois par semaine, Marie-Louise Niquet devait aussi assumer les frais d'un appartement plus cher que son logement de Manawan. On peut le penser, là, en ville, c'est toujours déjà à la base plus cher qu'en région. La maladie et la pauvreté sont tombées sur moi. J'étais découragée au point de penser cesser les traitements. Si on arrête ça, c'est la mort. C'est certainement très difficile de devoir... Là, c'est maintenant Marie-Ève Cournoyer de Service aux Autochtones Canada qui parle. C'est certainement très difficile de devoir se déraciner et se débrouiller dans des procédures administratives nouvelles quand on est malade en plus. Mais elle explique quand même que les Autochtones ne perdent pas leur statut d'Indien en déménageant hors de leur réserve. Au bout de 3 mois, certains frais de santé ne sont plus acquittés par Santé Canada. Il faut alors qu'ils s'inscrivent à la RAMQ afin que le gouvernement du Québec les prenne en charge, comme n'importe quel Québécois. Et donc, effectivement, là, c'est difficile, c'est de la bureaucratie, c'est des démarches à faire, mais il y a quand même moyen de se faire rembourser, c'est juste que c'est plus la même personne qui paye. Et là, c'est ça, je vous parle de Richard Moir, lui aussi de Manawan, qui a perdu sa conjointe Colette Ottawa, décédée ce printemps, des suites de son insuffisance rénale après 8 ans de dialyse. Au fil des ans, ils ont vu des amis mettre fin volontairement à leur traitement de dialyse pour se laisser mourir. Et pour soutenir ceux qui doivent traverser cette épreuve et les aider financièrement, ils ont créé, il y a 6 ans, la marche Motetan Mamo. C'est celle dont je vous parlais il y a quelques semaines. Il y avait eu un article là-dessus, qui se déroule sur 200 km entre Joliette et Manawan, justement. Ce qu'il dit en concluant, ça nous a surtout permis de créer un dialogue entre Autochtones et non-Autochtones. Ça a généré beaucoup d'amitié et de soutien pour nos malades. Et il me reste quelques minutes, alors je voulais juste vous partager. On en a parlé cette semaine, campagne électorale oblige, des difficultés pour les parents qui sont en région éloignée et dont l'enfant doit prendre l'avion pour recevoir des soins.
Oui, je me souviens, ça fait un peu de...
Oui, là, ça fait du bruit parce qu'on parlait de personnes non autochtones, mais on nous raconte quand même ici l'histoire d'un enfant de 6 ans qui a, encore une fois, là, ça, on dit la semaine dernière, et ça, c'était le 30 août, alors qui a dû être évacué. On a refusé de laisser ses parents monter avec lui. Les infirmières à Chibougamau leur disaient qu'elles essaieraient de les faire monter. Finalement, elles leur ont dit que c'était impossible et elles disaient que la décision ne relevait pas d'elles, mais on leur disait pas pourquoi. Et ce qui brise le cœur vraiment, c'est qu'une fois qu'ils ont réussi, après plusieurs centaines de kilomètres par voiture, à rejoindre l'hôpital à Montréal, parce qu'en fait, on leur offrait de prendre un vol le lendemain, mais ils ont plutôt passé la nuit à faire le trajet en auto pour être là le plus vite possible. Mais rendu à l'hôpital Sainte-Justine, leur enfant ne voulait même pas les voir parce qu'il était traumatisé que ses parents l'aient abandonné. Parce que c'est ça l'arrive, c'est que l'enfant pense que ses parents l'ont abandonné. Lui, il ne connaît pas toute l'histoire de la bureaucratie. Et ça complique, dans un enfant qui est dans une situation vulnérable, ça complique les soins qu'on doit lui donner. Sans compter, comme le disait une femme... Dans un article que j'ai lu, là, qui n'était pas en lien avec les Autochtones, mais un enfant de 2 ans là, qui avait été laissé seul, elle dit que la mère disait « Moi, je suis une mine d'informations pour les médecins en ce qui concerne la santé de mon enfant. L'enfant ne va pas pouvoir répondre à 2 ans
non, absolument.
Aux questions que le médecin lui pose. » Alors voilà, c'est juste pour vous dire que c'est toujours dans l'actualité et malgré que les lois aient été changées, concrètement, on continue de refuser aux parents le droit d'accompagner leurs enfants, ne serait-ce qu'un seul parent pour que l'enfant soit pas seul, c'est... En 2018, moi, je trouve ça inacceptable. Alors, de quoi vous allez nous parler maintenant, Daniel?
Bien, toujours dans le,
le Rolling Stone magazine. Alors, vous allez encore devoir nous traduire des termes en anglais.
Ouais, je me suis payé une traite de rollingstone.fr. David Bowie aura droit à son bar à cocktail à Londres. Tout un honneur, quand même.
Ah oui, quand même. Est-ce qu'on va l'y rencontrer?
On dit ici, le Ziggy ouvrira ses portes le 20 septembre prochain, donc c'est très bientôt, dans un peu plus d'une semaine, et l'endroit n'a pas été choisi par hasard. Un bar entièrement consacré à un des multiples personnages de David Bowie, Ziggy Stardust, pas mal dans les débuts de sa carrière, s'apprête à voir le jour à Londres au sein de l'hôtel Café Royal, à quelques encablures du Piccadilly Circus. Un lieu très lié à l'histoire du « Man Who Fell to Earth », puisque le 3 juillet 1973, il y organisait le dernier souper de Ziggy, juste après un concert mythique donné à l'Hammersmith Odeon. Parmi les invités de cette fête, qu'on s'imagine volontiers orgiaque...
Je ne sais pas pourquoi
de moi.
Vous pensez
je sais pas
à ça.
On s'imagine comme ça.
Non, aucune idée.
Aucune idée. Donc, parmi les invités, on retrouve Lou Reed, Paul McCartney et Mick Jagger. Hommage oblige, le Ziggy verra sa carte bourrée de références à l'album culte The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ça fait un titre un peu
c'est
long.
Un peu long, mais même. En même temps, c'est
mais dans
c'est
le temps,
poétique.
Les albums étaient gros. Sur un vinyle.
Il y avait de la place.
Ça écrit des grands titres. Aujourd'hui, c'est un CD, ça rentre moins bien. Et en plus, en streaming, ça a été encore plus cool. Donc, sorti à l'origine en 1972, contenant quelques-uns des plus célèbres morceaux du chanteur, de Five Stars à Rock'n'Roll Suicide, en passant par Suffragette City, Starman ou encore Moonage Daydream. Je pense que les deux plus connus là-dedans, c'est sans doute Starman et Suffragette City. À ce titre, vous pourrez y déguster un Tigers on Vaseline.
C'est drôle, ça ne m'inspire pas, le mot Vaseline, ouais. Me semble que...
Référence aux paroles de Hang On to Yourself.
Ouais, je sais bien,
donc,
mais
il
n'y a pas d'autres paroles qui auraient pu...
Non, mais il faut voir le texte au complet pour voir l'allusion, sinon ça fait... Okay. C'est vrai que ça sonne un peu drôle. C'est une réinterprétation maison de la Piña Colada, ou encore un Darkness and Disgrace, mélange d'espresso martini et de rum flip, tirant son nom du morceau Lady Stardust. Petit détail qui devrait ajouter au charme du lieu, un jukebox entièrement dédié à la discographie du Tin White Duke. Ça, je trouve que c'est une bonne idée.
C'est vraiment, oui. Et puis, il y en a beaucoup, une grande discographie.
Oui, puis il y a beaucoup de... Il y a certains artistes qui ont fait beaucoup d'albums avec une chanson ou deux connues. Mais lui, il a tiré beaucoup de singles de ses albums. Donc, j'imagine qu'un jukebox, ça se prête très, très bien à ça. Disparu brutalement au tout début de l'année 2016, David Bowie n'en finit plus de démontrer toute l'étendue de son influence dans le monde du rock et de la pop. Entre hommages plus ou moins réussis, interprétations autour de son dernier album Black Star, considéré par certains fans comme une lettre d'adieu chiffrée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais...
Ça finit toujours par revenir, hein, ça, les messages cachés.
Mais je ne sais pas si vous aviez vu le vidéoclip de...
Non.
C'était assez... on le voyait sur un lit, qu'on pensait à un lit d'hôpital avec les yeux bandés.
Ouais, disons qu'il y a raison.
Ça avait vraiment l'air d'une annonce.
Ça prête à ça, c'est vrai.
Ça fait un petit peu... Bon. un petit peu weird. Et découverte de titres jusque-là inédits, rares sont les artistes à susciter un intérêt aussi vivace et à laisser un vide aussi béant dans le paysage de la pop music. On dit rare, mais il y en a quand même quelques autres.
Il y a eu beaucoup de rares dernièrement.
On parle
de
Prince depuis son départ ou de Michael Jackson. Il y a toujours beaucoup de choses qui se disent encore à leur sujet, même s'ils nous ont quittés depuis un petit bout de temps.
C'est vrai.
Mais c'est quand même, on parle d'une catégorie d'artistes assez exceptionnelle. Donc, jusqu'à ouvrir un bar au lieu de fête et de musique pour saluer sa mémoire une fois encore.
Played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the gnat with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar.
Ziggy Stardust par David Bowie.
Et là, j'ai pas de lien à faire avec ça. Il est dans une classe
c'est
à part.
C'est pas grave, le lien était fait avec l'article que
j'ai voilà. Mais vers un premier comité de justice autochtone à Unamen Chipou. Donc, c'est un article de Jean-Louis Bordelot, un très court article sur Ici Côte-Nord de le site de Radio-Canada. Le projet pilote, donc, de justice réparatrice gouverné par des Innus verra le jour au courant de la prochaine année à Unamen Chipou. Ça permettra à un groupe de 5 à 7 personnes respectées dans la communauté de déterminer les sentences pour des crimes mineurs dans le plus gros village Innu de l'Est. Pour l'époque moderne du peuple Innu, il s'agit du premier projet de justice autochtone. Advenant un succès, d'autres comités de justice pourraient voir le jour dans d'autres communautés du regroupement Mamit Inuit qui chapeaute le projet, c'est-à-dire à Pokuachipu et à Ekwanichit. La directrice intérimaire des services sociaux de Mamit Inuit, Maude Bellefleur, espère que ce comité montrera l'exemple pour les autres communautés Innu. En tant qu'Innu, on sait nos réalités, on sait comment on vit et comment on peut réparer. Comme on dit, c'est un comité de justice réparatrice. Ce comité de justice permettra au conflit de se régler au sein de la communauté au lieu de se déplacer jusqu'à cette île. Elle se dit également ouverte à collaborer avec toutes les communautés pour que ces pratiques s'implantent partout sur la côte nord. Le projet bénéficie d'un financement du gouvernement du Québec. Et ben, c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Maurice Bolduc, à la mise en onde et aux choix musicaux. Merci Daniel Lachance.
Merci.
Et moi, je suis Isabelle Falardeau et je vous dis à dans deux semaines parce que je vous annonce que je suis en vacances la semaine prochaine.
Bon.
Alors, vous pourrez, soyez à l'écoute pour écouter Serge qui sera de retour.
Oui, j'espère bien que Serge sera de retour.
Et Daniel. Et puis, tout de suite après nous, ben, c'est le quotidien des quotidiens qui suit. Bonne journée.